Dave Taylor, rock and roll. Good people, good times. Right on, rock and roll. Kip Smith, it's fun to say, Kip Smith. Yeah, Kip Smith will take you to the mountain. Rock and roll.
Qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites
de mauvaise vie,
libérée,
soumise,
d'esprit,
fatale,
tatouée,
douce,
savante,
de l'être,
facile,
fidèle,
bonne femme,
au foyer,
moderne,
citoyenne,
de caractère,
combattante.
Écoutez-nous,
nous vous parlerons d'elle,
de vous
et des autres,
le premier dimanche de chaque mois à 13h.
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, pour cette dernière émission de la saison, nous allons vous parler des un peu des pionnières de la radio, si on peut dire. Alors qu'il s'agisse de Ménie Grégoire, Macha Béranger, Madame Soleil, et il y en a bien d'autres après, ouais, bien sûr. Donc, alors on les appelait aussi, par exemple, la Dame de Cœur, ou encore la Reine de la Nuit, ou encore quelques autres. Alors on va commencer donc par Ménie Grégoire.
Alors, allô Ménie, RTL de 1967 à 1982. Donc, 1967, à Paris, Ménie est recrutée par la radio RTL. Son rôle, c'est de faire parler les auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlante, les femmes de la France entière se confient à la Dame de Cœur. Bientôt, elles seront des millions à la suivre. Ménie Grégoire, son vrai nom étant Marie Laurentin, Ménie Grégoire est célèbre pour avoir vulgarisé la sexualité à la radio à travers ses émissions, donc toutes ses émissions intitulées Allô Ménie. Elle fut une pionnière du dialogue avec les femmes sur leur vie intime et tout ça, ça se passait sur RTL. Elle prodiguait des conseils, une aide psychologique en matière d'éducation des enfants et aussi de sexualité. C'est une journaliste et une écrivaine à l'origine. Voilà, c'est la fille de Maurice Laurentin, qui était architecte, et de Marie Jacquetel. Donc Ménie Grégoire est née le 15 août 1919 à Cholet. Son frère, l'abbé René Laurentin, est un prêtre et théologien de renom. Elle a confié les raisons pour lesquelles, dès l'âge de 3 ans, elle ne veut plus porter le nom de Marie. Elle a refusé ce nom qui contenait probablement, pour moi, une façon d'être, un lourd bagage chrétien, classique et bourgeois. J'ai voulu m'appeler Ménie. Bon. Le 26 août 1943, Marie Laurentin donc épouse Roger Grégoire, alors professeur à Sciences Po, puis conseiller d'État ayant terminé sa carrière comme président de section au Conseil d'État. Voilà, elle participe avec lui à Tournée Manège en 1986. Ils ont trois filles, Ève, Isabelle et Nathalie. Ménie reprend une activité professionnelle à la scolarisation de sa dernière fille. Elle fait des productions journalistiques sur des sujets d'art et de maison, avant d'intégrer la revue Esprit, où elle participe au premier numéro dont les femmes sont le sujet, avec un numéro spécial intitulé « La femme au travail ». Elle s'intéresse alors aux problématiques que rencontrent les femmes dans leur vie, de manière générale. Elle fait partie du comité directeur de la revue de 1960 à 1970.
Alors là, je vous ai fait un petit montage sur d'émission. Alors il y a le jingle et puis de RTL. Donc et puis il y a la présentation de Méni Grégoire et plus une lettre, voilà, de parce qu'elle recevait des milliers de lettres.
Ah oui, oui, oui.
Voilà, donc on s'est amusé à faire un petit montage.
Il est 15h10 sur RTL. Bonjour Méni Grégoire.
Vous savez, je reçois beaucoup de lettres de solitaires, mais je vous préviens, je me refuse ici à pleurer. On me dit souvent que je suis forte, mais si je parle ici de tous les problèmes, ce n'est pas pour pleurer, sinon je ne sers à rien. Aujourd'hui, avec tous ces solitaires, on va se poser la question de savoir pourquoi certains êtres sont seuls alors que d'autres sont très entourés. Voici une première lettre.
Madame, je suis seule à Paris. J'ai quitté ma province à 22 ans. Bien sûr, chez moi, j'aurais pu me marier. Peut-être aujourd'hui, je serais mère de famille. Mais voilà, je voulais connaître autre chose. Donc, je suis venue travailler à Paris comme femme de chambre. C'était pour moi le meilleur moyen de démarrer. Ça fait maintenant 7 ans que je fais la même chose. Je n'ai aucun contact avec l'extérieur. Le matin, je descends 3 étages. Le soir, je les remonte. Il m'arrive pendant un week-end de n'ouvrir la bouche que pour dire merci à la boulangère et pardon dans le métro. J'ai cru rencontrer le grand amour sans bague au doigt. Vous allez sans doute me conseiller de rentrer chez moi, mais mes parents se sont habitués à mon absence. Et surtout, je suis devenue trop indépendante. Et surtout, madame, il y a des jours où la solitude est intolérable. Madame, que faut-il faire pour rencontrer d'autres personnes? Je voudrais vous soumettre aussi un projet qui me tient à cœur. Acheter un studio, qu'en pensez-vous?
Voilà, donc c'était le genre de lettre voilà, qu'elle recevait, et bien d'autres, bien même des hommes qui lui écrivaient aussi parfois. Ouais. En général, c'était pour se plaindre de l'émancipation de leur femme.
Bah, c'est vrai que c'était dur pour eux.
Alors, en parallèle donc à son activité de journaliste, Méni Grégoire fait partie du comité de liaison des associations féminines. Et elle est nommée experte au Conseil national du travail féminin. Et elle va donner aussi des conférences à travers toute l'Europe, en Suède, en Italie, Finlande, etc., même jusqu'aux États-Unis. Son intérêt est donc particulièrement ciblé sur le travail et les femmes, ainsi que sur la contraception. Son voyage en Suède lui fait découvrir le premier planning familial européen. Elle participe à faire découvrir en France la contraception américaine Naissance, la pilule contraceptive. Elle travaille également pour le magazine Elle, où elle écrit des articles qui lui valent des centaines de lettres de lecteurs chaque semaine. En 1964, son ouvrage, Le métier de femme, est un succès qui l'a fait découvrir à un plus large public. L'ouvrage, relatif aux réflexions sur le travail et les femmes, occupe une importante partie de son activité professionnelle avant son arrivée à RTL. Et pour elle, le féminisme imprégné des idées de combat de Simone de Beauvoir est dépassé. Les femmes, dans leur réalité, sont mères et aspirent à vivre sainement dans leur foyer, quelle que soit leur situation sociale ou intellectuelle. Si son aîné a une vision théorique, Méni Grégoire se veut plus pragmatique, plus proche de la réalité sociale des femmes. Et à partir de 1968, elle contribue à Marie Claire avec des sujets d'actualité autour du féminisme et notamment de la sexualité. En 1973, elle est entendue à l'Assemblée nationale dans le cadre des travaux d'Henri Berger et de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Elle y fait part de messages reçus de la part de son audience par courrier ou par appel téléphonique. Ah bon, je vous propose maintenant d'écouter une petite chanson de Boris Vian.
De 1956, belle année.
Voilà, oui, belle année, la meilleure.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser, et je te donnerai un frère. frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait, que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère, on dit rentre chez ta mère, et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, où je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur.
Alors, très jolie chanson.
Voilà, j'ai zappé un peu là, une erreur technique,
Bon, alors, on va continuer à parler de la carrière à la radio et à la télé de Méni. Alors, ces émissions Allô Méni et Responsabilité sexuelle sur RTL ont contribué fortement à démythifier la sexualité. Elles ont battu des records de longévité, plus de 14 ans quand même, hein, de 1967 à 1981. L'émission, selon les périodes, durait de 30 minutes à 1 heure, chaque jour en direct, en début d'après-midi. Après lecture et commentaire d'une lettre, Méni Grégoire répondait en direct à des appels d'auditeurs pendant 6 à 9 minutes. Une seconde émission d'une demi-heure fut ajoutée, donc en octobre 1973, intitulée « Responsabilité sexuelle », considérée comme la première émission sexuelle radiophonique, à vocation principalement d'éducation sexuelle. En 1967, Radio Luxembourg fait peau neuve. La station est renommée RTL par le nouveau président-directeur général Jean Prouveau, et Jean Farran intègre la tête de la station. Homme de télé, il souhaite créer de l'interactivité avec les auditeurs et il aimerait bien rajeunir un petit peu le public visé. Il s'adresse à Méni Grégoire pour cibler le public féminin, pour faire parler les femmes. Et Méni Grégoire accepte et lit une lettre d'une lectrice du magazine Elle sur un problème féminin alors indicible, toujours un sujet de sexualité. Les jours suivants, les lettres affluent de manière croissante. L'équipe finit par dédier un standard pour créer un dialogue plus vivant et toujours plus interactif avec les auditeurs. Les émissions se déroulent alors en deux séquences, la lecture d'une lettre et son commentaire, ainsi qu'un appel et un dialogue avec Méni Grégoire. Les auditeurs sont entre 80 et 90% des femmes, il y a quand même quelques hommes qui écoutent. L'émission est d'ailleurs conçue comme étant un espace féminin d'écoute, de conseils et d'échanges. L'émission est diffusée dans un créneau horaire approprié en début d'après-midi, quand les hommes sont au travail et les enfants à l'école.
Il faut être tranquille quand même pour pouvoir poser les questions.
Bah oui. Et puis, ça intéresse peut-être moins les hommes.
Voilà.
Les sujets en question. Durant les émissions qu'elle anime, des auditeurs de façon anonyme lui téléphonent pour avoir des réponses à leurs interrogations sur les questions de société. On recense trois thématiques prédominantes au cours de ces 14 années de diffusion. Ça, c'est intéressant. Tout d'abord, les questions du couple, du foyer, de la famille et du rôle de chacun au sein de la famille. Ensuite, les questions relatives vraiment à la sexualité et à la santé sexuelle qui commencent à émerger et qui est pour devenir prépondérante, d'ailleurs ce qui aboutit à la création de la seconde émission en 1974 intitulée « Responsabilité sexuelle ». En parallèle de la décision de création d'une éducation sexuelle à l'école. Voilà, c'était dans le vent, on peut dire. Alors, cette dernière émission Responsabilité sexuelle est toujours animée par Méni et un homme. Alors, soit un homme d'église, soit un médecin, soit un sexologue, mais un homme. L'intervenant le plus régulier est le docteur Michel Maignan, un médecin sexologue et psychothérapeute, ayant dirigé les premières traductions françaises des œuvres de Master & Johnson. Et enfin, les dernières années vont augmenter le nombre de sujets portant sur les difficultés économiques et le monde du travail. Voilà. C'est le troisième sujet
abordé, prédominant.
Méni Grégoire présente également une émission autour des psychodrames. Ce sont des thérapies de groupe où les sujets improvisent à partir d'un rôle donné. Cette nouvelle forme d'émission montre sous un autre aspect l'importance que Méni Grégoire donne à la psychanalyse, elle qui a, comme son amie Françoise Dolto, suivi une thérapie auprès de René Laforgue. À l'époque où je faisais mon émission, dit-elle, l'homme était souvent un peu une brute et la femme pas du tout informée. Elle est ainsi souvent considérée comme la première psychologue radiophonique.
Voilà. Bon. Donc là, je vous propose d'écouter un extrait d'une émission qui a été consacrée à l'homosexualité, ce douloureux problème. Bon, on verra après que ça a fait controverse.
Ah bah oui.
Ici Méni Grégoire qui vous dit bonjour à tous. Vous entendez la salle Payel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Mais avant de donner la parole aux gens qui connaissent bien la question pour des tas de raisons diverses, je voudrais résumer ce que moi j'ai entendu pendant 3 ans, ce que j'ai essayé de comprendre et ce qu'on m'a dit, car les lettres d'homosexuels dans mon courrier tiennent une très grande place. Je crois qu'on m'a dit 3 choses. On m'a dit premièrement que c'est un accident, qu'on ne naît pas comme ça, on ne s'y attendait pas, contrairement à ce qu'on croit, on a dû le devenir, on ne sait pas comment. Les gens qui savent vous diront que c'est par un mauvais rapport avec le monde, représenté souvent par les parents. On m'a dit deuxièmement que tout être humain entre 12 et 14 ans peut se tromper. Il passe toujours une phase où il n'a pas encore choisi, où il est un peu perdu, et ça peut arriver à tout le monde. Et la troisième chose qu'on m'a dit, c'est que la notion de culpabilité, qui est très importante dans ce cas-là, vient de la société et que la société culpabilise très différemment les hommes et les femmes. Elle culpabilise les hommes et pas les femmes. Et les lettres que j'ai reçues des homosexuels garçons, jeunes, me disent qu'ils sont malheureux. Qu'ils sont malheureux la plupart du temps jusqu'à l'envie de suicide et que cette découverte est un drame. Et c'est pour ça que je veux poser le problème comme il m'a été posé, comme une chose pas drôle, comme une chose finalement importante et qui peut arriver dans toutes les familles, tous les enfants de chacun de nous. Ceux qui ne souffrent pas, bien sûr, ne m'ont pas écrit, mais il y en a qui m'ont écrit en disant qu'ils ne souffraient pas pour faire de la propagande, c'est-à-dire se réhabiliter, et j'en conclus que quand on a besoin de se réhabiliter, c'est qu'on est quand même culpabilisé d'une façon ou d'une autre. Maintenant, je vais donner la parole aux gens qui sont là, je sais déjà ce qu'ils ont à dire, ils ont beaucoup de choses à dire. Qui veut la parole? Bon, allez-y.
Donc cette émission du 10 mars 1971, consacrée donc à l'homosexualité, ce douloureux problème, est restée célèbre pour avoir été interrompue par des militants du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, présents à la salle Pleyel, d'où était diffusée l'émission en direct. RDL a dû reprendre l'antenne à la suite du désordre provoqué, les manifestants ayant jugé homophobe le ton de l'émission où intervenaient des autorités morales comme un prêtre et un psychanalyste. Donc voilà, c'était pas très bien passé auprès de... elle pouvait peut-être parfois avoir un ton un peu moralisateur.
C'est-à-dire que c'est une époque, je pense qu'il y avait... C'était quand même considéré à l'époque comme quelque chose un peu anormal.
De déviant.
Voilà. Donc, forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. À raison, d'ailleurs.
Alors en 67, elle participe à plusieurs plateaux de l'émission présentée par Paul Giannoli sur France 3, L'Homme en question. Et pendant l'hiver 84, son émission radiophonique est adaptée pour la télévision Avec le temps et donc diffusée sur FR3. Alors elle est surnommée la Dame de Cœur, elle a été éditorialiste du mensuel Marie-Claire à RTL de 80 à 86 et France Soir de 86 à 99. Et animatrice aussi sur France 3 en 84 et collaboratrice à France Bleu. Donc une activité quand même assez dense, voilà. Elle meurt le 16 août 2014 à Tours, où elle est inhumée dans la chapelle familiale de son époux au cimetière de Montmartre. Donc pas à Tours, mais à Montmartre. Alors, femme de lettres, elle participe en 76 à une émission d'Apostrophe qui est consacrée à l'émancipation des femmes et a publié 27 ouvrages entre 65 et 2013. Quand même, ça fait...
Elle me fait de tigre presque.
Voilà, c'est ça. Elle enregistre également 6 histoires pour enfants et un album, Allô Méni Grégoire, Les jeunes et l'amour. En 1969. Alors, les archives professionnelles de Méni Grégoire sont déposées aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Il y a quand même 113 mètres linéaires comprenant plus de 2000 bandes magnétiques. Impressionnant.
Impressionnant. Voilà.
Très impressionnant, comme on dit dans Star Wars. Alors, je vous propose d'écouter une petite chanson de Jeanne Moreau.
Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? Défaire si je peux. Cet homme est là qui me sourit, il me parle et j'en suis ravie. Je suis le dessin de sa bouche, légèrement sa main me touche. Ce soir je ne suis pas farouche, prise au piège comme une mouche. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là qui prend mon bras, je le suis, je ne sais pourquoi. Nous sommes un peu trop intimes, je vais encore être victime. Une aventure bellissime, cette rencontre est rarissime. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme-là me déshabille, ce soir mon corps sent la vanille. Tout simplement, il a dit, viens vainement, je me retiens. Il fait tout cela pour mon bien. Son désir a tissé les liens. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là à mon réveil, dehors il fait déjà soleil. Nous reprenons notre entretien, ce n'est pas un théoricien. Quel est son nom? Je n'en sais rien. Mais je crois qu'il est brésilien. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment défaire si je peux. Oh, 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 quelle
le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire, c'est trop tard.
Macha sur France Inter de 0h30 à 3h du matin.
Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. Alors appelez-moi en direct sur notre ligne de nuit du 524-71-00. Je serai très heureuse de vous écouter et de partager toutes vos confidences. De minuit 30 à 3h du matin, au 524-71-00, c'est le standard du cœur et le micro de la confiance.
France Inter, écoutez la différence.
Oui. Allô, Macha ?
Voilà, alors donc nous allons parler de Macha Béranger, surnommée la reine de la nuit par ses amis. Elle s'était fait connaître à la radio française par sa voix suave et rocailleuse lors des émissions de nuit. Elle est devenue après l'une des voix de la nuit du studio 134 de la maison de la radio. Dans son émission, donc de minuit à 2h du matin, l'animatrice échangeait avec les auditeurs qu'elle appelait les « sans sommeil ». Des confidences parfois très intimes en leur donnant des conseils sans les juger. Macha Béranger, de son vrai nom Michel Rion, née le 22 juillet 1941 à Vichy, est une animatrice de radio française mais également actrice et chanteuse. Elle a suivi les cours de l'école Charles Dullin, puis joué au théâtre, alors Les Troyennes en 1978, Tous en ligne en 1991. Elle a joué également dans une dizaine de films et de séries de télé. Elle est principalement connue pour Allô Macha, l'émission qu'elle anime sur France Inter du 5 avril 1977 au 30 juin 2006. Au cours de cette émission donc nocturne, de dialogue intime avec les auditeurs de minuit à 2h du matin, du lundi au vendredi.
J'essaie d'imiter la voix de Macha.
Je sais, je fais ce que je peux. Je ne suis pas Fanny Ardant, donc j'y arrive pas très bien. Les auditeurs appellent au téléphone. Macha Béranger écoute et répond avec sympathie de sa voix grave et profonde. Près de 100 000 sans sommeil confient leur mal de vivre, leur solitude, leur joie, leur peine, enfin bon, tout ce qu'ils ont à confier. Quoi.
Toute leur vie, quoi.
Toute leur vie. Pour être davantage au diapason des états d'âme de ses interlocuteurs, en plus, elle met en place une ambiance propice dans son studio. Donc, lumière tamisée, présence de son petit chien.
Voilà, elle disait que c'était très important pour elle d'être dans un... Ouais. Dans un... l'environnement,
bah ouais, pour continuer à parler comme ça. Des archives documentant la préparation de l'émission et les réactions des auditeurs au cours des années 1980 à 94 ont été versées aux Archives nationales de France. À partir de 1994, les enregistrements de l'émission sont eux-mêmes conservés à l'INATEC au titre de dépôt légal de la radio. Alors, première du genre, cette émission Allô Macha marque la radio française et suscite finalement des émissions semblables sur d'autres stations et des copieurs. En 1978, Macha Béranger fait paraître Allô Macha ou La nuit des sans-sommeil, nouvelle édition boudinière. Donc on peut... Je ne sais pas si on peut toujours se procurer, mais enfin bref. Elle est proche de Louis de Funès, auditeur de ses émissions... Et elle l'accueillera d'ailleurs une nuit dans son studio de radio à l'antenne.
Voilà, donc je vais vous passer l'extrait.
Super.
Louis de Funès, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je ressens votre présence à mes côtés ce soir comme un immense cadeau. Tout d'abord parce que je vous admire infiniment, et puis ensuite parce que je sais que vous avez une certaine horreur des interviews et une certaine horreur du micro.
Oui, j'ai peur.
Ça semble incroyable.
Oui, j'ai peur.
Alors, moi, je vous connais très peu à la ville.
En général, quand je parle, je dis tout le temps des choses qui n'ont ni queue ni tête. Je suis toujours désappointé quand j'écoute. Alors, ce soir, ça va être pareil.
Non, mais alors, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, vous êtes persuadé que ce que vous allez raconter n'intéressera personne.
Peut-être.
Alors, ça, c'est quand même surprenant. Alors, vous êtes adoré.
C'est pour ça que je suis venu pour la nuit. C'est pour ça que je suis venu pour la nuit. Parce que la nuit, je trouve que les personnes écoutent d'une autre façon, sont plus indulgents. Peut-être.
Mais écoute très attentivement.
Sûrement. Oui. Mais je suis ravi.
Alors, en tout cas, vous m'avez promis.
Pas que je vous écoute le soir, j'écoute très attentivement aussi.
Oui, c'est vrai, j'ai appris que vous m'avez révélé que vous étiez un fidèle sans sommeil.
Depuis beaucoup d'années.
Oui, mais j'étais très, très heureuse de l'apprendre.
Alors, en fait, pour la